Alors pour nous parler de Mohamed Def, je retrouve maintenant notre confrère Olivier Rafovitch. Bonsoir Olivier.
Bonsoir Yael.
Merci de nous rejoindre. Avant d'être notre confrère, vous êtes tout d'abord colonel de réserve dans l'armée israélienne et vous connaissez bien le personnage de Mohamed Def. Déjà 7 tentatives d'élimination, Olivier, et Israël le manque à chaque fois. Il est à 3 reprises grièvement blessé, mais il s'en sort. Qui est cet homme et quels sont ces crimes qui font de lui l'un des terroristes numéro 1 pour Israël?
Écoutez, je vais essayer avec vous un petit peu de décrire ce terrible personnage qui est peut-être le terroriste le plus recherché par Israël depuis maintenant presque que 30 ans. C'est un tueur, un assassin, et pas du tout un héros, malgré le fait que dans la bande de Gaza et au sein du Hamas, il est effectivement perçu un peu comme le héros de la branche armée du Hamas, la branche Azadin el-Qassam. Alors, Mohamed Def est né en 65 à Khan Younes. Son vrai nom est Mohamed Dayeb Ibrahim al-Masri. C'est un chef donc palestinien. Il est membre du commandement suprême de la branche donc Izzadine al-Qassam, ces fameuses terribles brigades du Hamas qui sont responsables depuis des années de multiples attentats et de meurtres et d'assassinats en Israël. Et pour nous, en Israël, il est recherché depuis 26 ans, en fait, depuis 95, alors qu'il était à l'époque responsable de la mort de soldats et de Tzahal, d'attentats, suicides et de kidnapping. Il faut savoir que Def rejoint le Hamas, qui lui-même est créé en 88 par le cheikh Yassine, tristement célèbre, et il rejoint donc le Hamas en 1990 avec l'assistance de Yahya Ayash et de Adnan Al-Ghul.
Alors Yahya Ayash, ingénieur du Hamas.
Exactement. Alors je suis plus âgé que vous et vous un petit peu plus âgé que les jeunes étudiants aujourd'hui. Donc on se souvient aussi tristement de Yahya Ayash qui était nommé l'ingénieur responsable dans les années 95-93 d'attentats terrifiants à la bombe dans des autobus, dans des restaurants. Alors Mohamed Def en 94 est impliqué dans des kidnappings et dans des assassinats de soldats de Tzahal. Les noms vont peut-être nous revenir à la mémoire: Shitar Simani, Aryeh Frankenthal et Nachshon Waxman. Nachshon Waxman, vous vous souvenez, c'est ce kidnapping terrifiant d'une cellule du Hamas qui détient Nachshon Waxman dans le village de Dir Nabala près de Ramallah. Les forces de Tzahal à l'époque mettent du temps à l'identifier avant de lancer une opération qui malheureusement va échouer durant l'opération. Le soldat Nachshon Waxman va être touché par les terroristes et va succomber à ses blessures. C'est là où Mohamed Def, l'homme qui aujourd'hui reste toujours vivant, bien vivant dans la bande de Gaza, et celui que nous recherchons depuis maintenant le début de l'opération, c'est lui qui déjà à l'époque donc est responsable de plus de 50 Israéliens, de la mort de 50 Israéliens, Yael, tués dans des attentats dans des bus à Ashkelon, à Jérusalem, au moins 50 Israéliens tués directement par l'action de Yahya Ayash. Que dire de plus pour lui qu'aujourd'hui il est toujours donc vivant, il est estropié par différentes actions israéliennes qui l'ont malheureusement manqué, mais il reste toujours très actif. D'ailleurs, durant cette opération actuel, gardien des murs ou des murailles, il a pris la parole, il a menacé directement Israël, ce qui est très rare de sa part. Il reste toujours dans le silence le plus total. Et ce matin, le porte-parole de l'armée, comme vous l'avez, je crois, mentionné, a dit que nous avions deux fois durant cette opération tenté de l'éliminer, et deux fois les éliminations ont été manquées. Alors, par rapport à cette question d'élimination manquée de Mohamed Def, on pourrait se demander pourquoi en fait Tzahal déclare qu'il a échoué.
Absolument.
Hein, dans l'opération d'élimination. Est-ce que c'est une action psychologique pour mettre la pression sur Mohamed Def? Est-ce que c'est pour quelque part resserrer l'anneau mortel autour de Mohamed Def pour son élimination? Savoir que il est recherché également par les services de sécurité américains depuis 2015, je crois, ou 2014. Et lui aussi, c'est un homme à abattre pour des services de renseignement amis d'Israël. Mais à l'heure où nous parlons, il reste toujours en charge de la branche militaire à Radin El-Qassam du Hamas. Il approche la soixantaine et il reste aujourd'hui extrêmement influent dans la bande de Gaza.
Et extrêmement dangereux.
Extrêmement dangereux, évidemment.
Alors donc, vous nous disiez, pour quelle raison, en fait, est-ce qu'on a eu cette information aujourd'hui, qu'à deux reprises, on avait essayé de l'éliminer? Est-ce que ce serait peut-être pour justifier la continuité de cette opération, alors qu'on parlait d'un éventuel cessez-le-feu? Est-ce que le but aujourd'hui ne serait pas tout simplement d'avoir la tête de Mohamed Deif?
Écoutez, là, on pose une question qui vaut, je dirais, non pas un, mais 10 millions de dollars. Parce qu'il y a aujourd'hui dans toutes les chaînes de télévision israéliennes, dans tous les, je dirais, les parlements, qu'ils soient officiels ou officieux, de la presse et des gens qui sont proches du pouvoir, c'est ce grand questionnement, comment peut signer une telle opération pour que Israël et l'armée israélienne et le gouvernement israélien finissent cette opération face au Hamas de manière victorieuse. Voilà, en fait, c'est ça. Hein, on ne veut pas finir cette opération et que le Hamas soit perçu comme le gagnant. Et effectivement, nous pouvons penser, nous pouvons, je dirais, ressentir que le Premier ministre Netanyahou aimerait terminer cette opération, non pas par une entrée terrestre dans la bande de Gaza, mais en montrant le corps inanimé de Mohamed Deif, éliminé par l'armée israélienne. Ce serait quelque part un final positif et un retour de la force de dissuasion d'Israël. Mais à l'heure où nous parlons, une opération comme cela n'a pas encore eu lieu, en tout cas pour son élimination complète. Et l'autre côté, le Hamas est très conscient de la volonté israélienne de vouloir finir avec un final, et comme on dit dans le langage des médias, qui soit à son avantage. Mais le Hamas aussi, aujourd'hui, comme on l'a vu, a lancé plusieurs barrages importants de missiles vers les villes israéliennes. Il continue à narguer Israël. Il continue également à peut-être ouvrir un second front via des milices Hamas ou pro-Hamas au sud Liban, qui sont peut-être, encore une fois, il y a ici beaucoup de peut-être aidés et soutenus par le Hezbollah. En tout cas, aujourd'hui, le Hamas montre une force de frappe de la bande de Gaza, montre une force de frappe venant du sud Liban, et montre toujours une volonté de relier Jérusalem avec un cessez-le-feu possible, ce qui est pour l'instant pas très apprécié de la part des Égyptiens et d'autres pays arabes, qui ne veulent pas mêler le Hamas à Jérusalem. Mais pour l'instant, ils ne sont pas du tout prêts à être perçus comme les perdants de l'affaire.
Alors, au niveau de la guerre psychologique, est-ce que le fait de savoir qu'Israël est plus que jamais à sa recherche va avoir comme conséquence que Mohamed Deif, par exemple, se terre à partir de maintenant dans un bunker comme Hassan Nasrallah y vit depuis une quinzaine d'années?
Écoutez, d'abord, les bunkers, comme vous savez, dans la bande de Gaza, ne sont pas tellement protégés comme c'est le cas à Dahriya, dans le sud de Beyrouth. On a vu que les frappes de plus de 180 appareils de guerre israéliens ont détruit des dizaines de kilomètres de souterrains qu'on appelle le métro en langage militaire. Hein. Évidemment, c'est pas un métro, il n'y a pas ni de wagons ni de gens. C'est vraiment l'infrastructure souterraine du Hamas et du djihad islamique dans la bande de Gaza. Il se peut qu'il se taire, il se peut effectivement qu'il bouge d'un endroit à l'autre toutes les heures. D'ailleurs, savoir que son nom de guerre, c'est pas Mohamed Deif, mais c'est Abu Khaled, hein, c'est le nom de guerre, comme beaucoup de terroristes, il a son nom de guerre. Et Abu Khaled, pour l'instant, est l'homme le plus recherché dans la bande de Gaza, et celui aussi
plus
qui fait peur. Plus que Sinoir.
Ah oui?
Plus que Sinoir. Sinoir, il faut savoir qu'il a déjà été arrêté, vous savez, oui, par les Israéliens, il était en prison. D'ailleurs, juste une parenthèse, Yael, puisque vous parlez de Sinoir. Sinoir, de manière paradoxale, était malade lorsqu'il était en prison en Israël. Il a eu une tumeur au cerveau. Et ce sont les médecins israéliens, écoutez bien, Yael, les médecins israéliens qui ont soigné et sauvé Yahya Sinoir d'une cette tumeur au cerveau qui a été extraite. Il a été libéré durant l'opération d'échange pour Gilad Shalit, il est devenu l'homme que nous connaissons aujourd'hui, qui est, je dirais, l'homme de guerre du Hamas. Mais dans les niveaux opérationnels du Hamas, Mohamed Deif a beaucoup plus d'influence et de pouvoir que Irki Sinwar.
Très bien, Olivier Rafovitch, merci beaucoup pour ces précisions et on espère en tout cas que nous aurons enfin la peau de ce Mohamed Deif qui mérite effectivement...
J'aurais juste ajouté, bien si sûr. Vous permettez, il faut savoir que dans le passé, nous avons raté deux occasions de l'éliminer, dans les années 96 et dans les années 2000. Et la raison de cette non-élimination à l'époque, c'est que malgré le fait que le Shabak avait exactement identifié et localisé la présence d'Abou Khaled, hein, donc de Mohamed Deif, avec d'autres membres du Hamas à l'époque, il y avait une réunion de tous les membres, à l'époque, Tsahal s'est rendu compte qu'il y avait un risque qu'il y ait des dizaines et des dizaines de civils innocents qui auraient pu être touchés par une bombe d'une tonne qui avait été prévue d'être lancée durant ce rendez-vous des méga-terroristes. Et en fin de compte, l'opération a été annulée. C'est ce que d'ailleurs a déclaré aujourd'hui, entre autres, Avi Dichter, l'ancien patron du Shabak, qui était lui-même à l'époque en charge de cette opération. Mais ça vous donne juste l'état d'esprit de l'État d'Israël et de Tsahal. Lorsque Tsahal décide d'une opération ciblée, c'est vrai, il y a 20 ans, c'est vrai toujours aujourd'hui, il y a le pour et le contre par rapport au risque que ce qu'on appelle des civils, des innocents, puissent être touchés par une frappe. Et là, on a évité cette opération, mais on a payé un prix très lourd, puisque ces gens-là ont continué à être extrêmement dangereux et à avoir du sang juif, du sang israélien sur les mains.
Absolument. Olivier Rafovitch, merci beaucoup pour ces précisions.
Merci beaucoup, Yael.